Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 19h30 TU. On est lundi 26 juin 2017 au sommaire. 8 soldats tchadiens tués dans des affrontements avec des combattants de Boko Haram dans des îles du lac Tchad. Libération d'un Suédois enlevé en 2011 dans le nord du Mali. Un Sud-Africain enlevé en même temps et toujours entre les mains de ses ravisseurs. La Croix-Rouge demande aux groupes armés en Centrafrique de respecter la neutralité de l'institution après l'assassinat d'un de ses employés.
C'est l'arrière-pays. Les humanitaires sont en grande difficulté pour travailler. Nous allons faire un appel pour que les groupes armés, les porteurs d'armes, respectent les humanitaires qui ne font que aider la population.
Le président Donald Trump se félicite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser l'application partielle de son décret migratoire controversé. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. 8 soldats tchadiens ont été tués ce week-end lors de violents affrontements avec des djihadistes de Boko Haram sur des îlots nigérians du lac Tchad. Le point avec Dili Diko.
Selon un responsable militaire, les forces tchadiennes ont attaqué des éléments de Boko Haram sur 5 îles du lac Tchad. Les attaques ont fait 8 morts et 18 blessés parmi les soldats tchadiens et 162 djihadistes nigérians ont été tués. Les victimes tchadiennes faisaient partie de la force conjointe des pays riverains du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram. Le porte-parole de l'état-major N'Djamena a indiqué que 6 véhicules et plusieurs motos ont été détruits, des armes de différents calibres saisies. Au début du mois, 9 soldats tchadiens ont été tués suite à une attaque de Boko Haram contre un poste militaire de la rive nord du lac. Ces nouvelles pertes arrivent en même temps que la menace du président Idriss Déby Itno de retirer ses troupes des opérations militaires en Afrique si le Tchad ne perçoit pas d'aide financière.
Le Nigeria, également endeuillé, un triple attentat suicide a causé la mort de 9 personnes à Maiduguri, c'est dans le nord-est du Nigeria. Plus de détails avec Claire Morin-Jubourg.
Un kamikaze a réussi à pénétrer dans les bâtiments de l'université de Maiduguri cette nuit et a déclenché sa ceinture d'explosifs. Presque au même moment, 4 femmes kamikazes ont infiltré la communauté Zanari dans le quartier Gwandie. 2 des kamikazes se sont fait exploser, tuant au moins 8 personnes. Les 2 autres kamikazes sont mortes après s'être fait exploser sans faire de victimes, tout comme pour les 2 autres femmes kamikazes qui, elles, se sont fait exploser à l'université tôt ce matin. Selon la police, 16 personnes sont mortes et 13 autres ont été blessés. Vendredi, les services secrets nigérians avaient affirmé avoir déjoué des attentats à l'explosif visant des musulmans célébrant la fin du Ramadan à Kano, Sokoto, Kaduna et Maiduguri. Le gouvernement et l'armée ont annoncé à plusieurs reprises avoir vaincu Boko Haram, mais le groupe djihadiste multiplie les embuscades et les attentats, notamment à Maiduguri.
Le Suédois Johan Gustafsson, enlevé par Al-Qaïda en novembre 2011 dans le nord du Mali, a été libéré. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement suédois. C'est avec joie que je peux annoncer que Johan Gustafsson a été libéré et peut rentrer en Suède, a indiqué le chef de la diplomatie suédoise. Le Sud-Africain Stefan Malcolm McGowan, lui, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. En troisième otage, le Néerlandais Jacques Ruschke avait été libéré par les forces françaises en 2015. Un volontaire de la Croix-Rouge centrafricaine a été tué vendredi par des inconnus armés à Bangassou, une ville du sud-est du pays où des affrontements meurtriers ont opposé en mai dernier des groupes armés au groupe casque bleu de la MINUSCA. Joachim Ali a été tué dans les locaux de la Croix-Rouge. L'organisation appelle une nouvelle fois les groupes armés qui sévissent en Centrafrique à respecter la neutralité et l'impartialité de la Croix-Rouge. Et nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Le bureau de l'ONU aux droits de l'homme en RDC a regretté la décision d'un tribunal militaire du Kasaï de ne pas poursuivre pour crimes contre l'humanité 7 militaires poursuivis pour le meurtre de civils dans le centre du pays. Samedi, le tribunal militaire de Mbujimaï a abandonné la charge de crimes de guerre, ne retenant que les meurtres, dissipations de munitions et outrages. Plus de 3300 migrants ont été secourus dimanche en Méditerranée au cours de 31 opérations. Deux corps sans vie ont été récupérés. Un navire et trois vedettes des gardes-côtes italiens ont participé à ces opérations, ainsi que plusieurs navires militaires européens et d'ONG présents dans les eaux méditerranéennes face à la Libye. Selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur au 25 juin, plus de 73 000 migrants sont arrivés sur le territoire national depuis le début de l'année, soit une hausse de près de 14% par rapport à la même période en 2016. Au Maroc, le roi Mohamed VI a fait part en Conseil des ministres de sa déception, son mécontentement et sa préoccupation pour le retard qu'accuse le programme de développement dédié à la ville d'Al-Hoceima. Cette ville de la région du Rif est agitée depuis presque 8 mois par un mouvement de contestation. Salwa Jafari.
Une colère royale. Lors de la réunion qu'il a présidée à Casablanca, capitale économique du royaume, le roi Mohamed VI a tensé ses ministres pour la non-exécution dans les délais impartis des projets inscrits dans le programme Manarat al-Mutawassit dédié à Al-Hoceima. Pour répondre aux revendications dans le RIF, l'État marocain a débloqué une enveloppe de 600 millions d'euros pour relancer ou accélérer ce vaste projet d'infrastructure, affirmant qu'il répondait à 90% aux revendications des contestataires et qu'il sera achevé dans les délais en 2019. Le souverain a également décidé de ne pas autoriser les ministres concernés à prendre leur congé annuel afin qu'il assure le suivi de ces projets. Par ailleurs, la police a procédé depuis le 26 mai à plus d'une centaine d'arrestations, dont les principaux meneurs de la contestation, accusés notamment d'atteinte à la sécurité intérieure.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, la Cour suprême a remis partiellement en vigueur le décret migratoire de Donald Trump, jusque-là bloqué en première instance et en appel. Les 9 juges de la Cour suprême vont l'examiner en audience à l'automne prochain. Le président Trump se félicite de cette décision. Eric Manirakiza.
Cette décision de la Haute Cour est une victoire selon le président Donald Trump. Plusieurs juges en première instance et en appel avaient suspendu la mesure qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans dont la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen. Maintenant, tout habitant de ces pays qui serait totalement inconnu des autorités américaines peut se voir refuser l'accès au territoire américain. Mais un ressortissant de ces pays venant rendre visite à un membre de sa famille établi aux États-Unis pourra venir, tout comme pourra venir un étudiant admis dans une université américaine. Il faudra probablement plusieurs jours pour que la police des frontières applique pleinement ce décret. La Cour suprême va s'y pencher à nouveau durant ses audiences en octobre prochain. Omar Jadwat, l'avocat de l'Association américaine de défense des libertés, espère que les plus hauts magistrats auront donc l'occasion de l'annuler définitivement.
Le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain a menacé ce lundi de bloquer les futures ventes d'armes aux 6 pays du Conseil de coopération du Golfe tant que le conflit avec le Qatar ne serait pas résolu. Selon la loi américaine, le département d'État doit notifier le Congrès 30 jours avant une vente d'armes importante qui a ensuite le pouvoir de voter une résolution bloquant la vente. La première ministre britannique Theresa May a signé un accord avec le parti ultra-conservateur nord-irlandais DUP en vue de la formation d'un gouvernement près de 3 semaines après avoir perdu sa majorité absolue aux législatives. En échange, l'Irlande du Nord va recevoir plus d'1 milliard d'euros supplémentaires au cours des 2 prochaines années. Les forces irakiennes tentent de sécuriser des quartiers de l'ouest de Mossoul après une contre-attaque meurtrière des combattants du groupe État islamique. Malgré les assauts de l'armée irakienne et de l'aviation de la coalition internationale, le groupe État islamique continue d'opposer une résistance farouche 8 mois après le début de l'offensive pour tenter de reprendre la 2e ville irakienne. Le ministre bahreïnien des Affaires étrangères a accusé le Qatar, mis au banc par ses voisins du Golfe, de chercher une escalade militaire en faisant appel à des soldats turcs. Le différend avec le Qatar est politique et sécuritaire et n'a jamais été militaire. Mais le déploiement dans ce pays de troupes étrangères avec leurs blindés est une escalade militaire dont le Qatar assume les conséquences, a écrit Cheikh Khaled Ben Ahmed Al Khalifa sur son compte Twitter. Au Pakistan, le bilan de l'incendie d'un camion d'hydrocarbures vers lequel des riverains s'étaient précipités pour récupérer du carburant est passé à 153 morts. La fin du ramadan avait déjà été endeuillée par une série d'attentats qui ont fait au moins 77 morts à travers le pays. Et puis en Chine, le prix Nobel de la paix Liu Xiaobo a été libéré pour raisons médicales. Le mois dernier, il a été diagnostiqué d'un cancer du foie en phase terminale. Incarcéré depuis près de 8 ans, il est considéré comme étant l'emblème de la lutte pour la démocratie dans son pays. M. Liu, 69 ans, est interné à l'hôpital. Il a été condamné en 2009 à 11 ans de prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique à présent dans la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
Kinshasa demande aux sociétés minières étrangères de transférer obligatoirement en République démocratique du Congo 40% de leurs bénéfices issus des exportations de minerais pour lutter contre le manque de devises qui frappe le pays. Requête formulée par le ministre de l'économie, samedi à Lubumbashi, en présence de 1500 représentants d'entreprises minières. Joseph Kapika avertit que les entreprises qui ne respecteront pas cette disposition subiront les rigueurs de la loi. Dette cachée au Mozambique, au moins 500 millions de dollars de dépenses demeurent inexpliquées selon le rapport d'audit du cabinet américain Kroll. En 2013 et 2014, trois entreprises à capitaux publics liées aux services secrets et au ministère de la Défense mozambicain avaient emprunté 2 milliards de dollars pour acheter du matériel de surveillance maritime et des navires. Le rapport relève des incohérences et zones d'ombre dans l'utilisation de cet emprunt. Le Nigeria espère augmenter son assiette fiscale par au moins 1 milliard de dollars grâce à un plan d'amnistie et d'immunité contre toute poursuite pour les fraudeurs fiscaux. À partir du 29 juin, ils pourront effectuer des paiements rétrospectivement selon le ministère des Finances. La première économie d'Afrique est en deuxième année de récession à cause de la chute des prix du pétrole.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la Coupe COSAFA qui se poursuit en Afrique du Sud.
Oui, et les choses commencent bien aujourd'hui pour le Zimbabwe dans le groupe B. Victoire sans appel, 4-0 devant le Mozambique. À suivre également Madagascar-Seychelles. On rappelle qu'hier dans le groupe A, la Tanzanie a bien lancé son tournoi en s'imposant face au Malawi 2-0. Victoire également de l'Angola qui a battu l'île Maurice 1-0. On rappelle que la COSAFA CAP est une compétition de football annuelle organisée par le Conseil des associations de football en Afrique australe.
Inquiétude pour l'attaquant mexicain Javier Hernandez à la Coupe des Confédérations.
Oui, à trois jours de la demi-finale contre l'Allemagne, Javier Chicharito Hernandez, principale arme offensive du Mexique, a été ménagé ce lundi à l'entraînement. L'avant-centre de 29 ans est le meilleur buteur de l'histoire du tri avec 48 réalisations. L'autre demi-finale mercredi opposera le Chili au Portugal. On rappelle que le Cameroun a été éliminé hier après sa défaite 3-1 contre les Allemands.
Tennis à présent, Andy Murray reste le numéro 1 mondial.
Oui, le Britannique conserve sa première place dans le top 10. Finaliste au Queens, le Croate Marin Cilic s'est hissé à la 6e place du classement ATP, publié ce lundi et qui marque le recul d'une place du Canadien Milos Raonic, éliminé lui au premier tour du tournoi londonien. De son côté, Roger Federer, vainqueur pour la 9e fois à Halle, reste 5e.
On termine par la fin du championnat d'Afrique de boxe à Brazzaville au Congo.
Oui, et on a eu droit à 10 finales hommes hier. Et le plus grand nombre de médailles d'or est revenu au Cameroun. 3 titres sur les 10 attribués. La Namibie a décroché 2 médailles d'or. Un seul titre pour le Congo, l'île Maurice, l'Algérie, l'Ouganda et le Kenya. Le Cameroun fait la différence. Également chez les dames avec 3 médailles d'or. Claudine Essiane, Obieng Yannick Azangé et Christelle Jiang sont les vainqueurs. Prochain rendez-vous pour les boxeurs africains, les championnats du monde en Allemagne au mois de septembre.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Centrafrique, un volontaire de la Croix-Rouge a été tué vendredi soir dans les locaux de la Croix-Rouge à Bangassou. Après des affrontements entre groupes armés ont fait une centaine de morts la semaine dernière et des locaux d'organisations humanitaires ont été pillés. Et donc pour ce premier élément de la partie magazine, Iris Fall a joint à Bangui Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine.
Son corps a été retrouvé le matin inanimé. Il a été assassiné par des gens inconnus. Il est volontaire de la Croix-Rouge. Quelqu'un qui a dit, bon, mais écoutez, moi je suis volontaire, je n'ai pas de logis à Bangassou. Je vais dormir au siège local de la Croix-Rouge et je vais m'occuper du local, le gardiennage. C'est ainsi que depuis plusieurs mois, il s'en occupe. Malheureusement, ils sont venus l'abattre juste parce qu'il est musulman. Vous savez, Joachim Ali, il est musulman, on l'a tué parce qu'il est musulman, c'est triste.
Et récemment à Bangassou, il y avait eu aussi des affrontements.
Il y a eu des affrontements entre des groupes armés de part et d'autre anti-Balaka et qui a fait en sorte que même là, il y a le personnel, la MINUSCA qui était tué là-dedans, il y avait 6 MINUSCA et il y avait plus de 100 et quelques morts à Bangassou. Donc jusque-là, la ville est toujours dans une situation de guéguerre.
Mais est-ce que l'insécurité, ça s'arrête seulement à Bangassou concernant les agents humanitaires?
C'est l'arrière-pays. Les humanitaires sont en grande difficulté pour travailler, en très grande difficulté pour travailler. Et nous allons faire un appel pour que les groupes armés, les porteurs d'armes, respectent les humanitaires qui ne font que aider la population.
Et d'autant qu'à Bria aussi, la semaine dernière, il y a eu des affrontements meurtriers, une centaine de personnes tuées aussi.
Même jusqu'hier, la Croix-Rouge est en train de ramasser les morts. On dépasse déjà la centaine, hein. On dépasse déjà la centaine de morts à Bria. Et même hier, il y a eu encore des combats. Il y a eu 2 ou 3 morts, mais il y a encore des combats. Il y a eu des combats hier sur l'axe Bria Ouadadjalo au Pikawit, il y a eu des personnes qui sont mortes à l'issue des combats.
Est-ce que vous avez un appel à leur lancer?
Je demande, la Croix-Rouge centrafricaine demande à tous les porteurs d'armes de respecter la présence des humanitaires qui sont là pour faire un travail qui est favorable aux vulnérables. Et les humanitaires en général et la Croix-Rouge en particulier, nous ne prenons pas part aux hostilités de nous aider, de nous laisser travailler, mais de ne pas s'en prendre à nous. Voilà le message que je voulais passer aux porteurs d'armes.
Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
4 artistes ont été arrêtés vendredi et transférés à la prison centrale de Goma, dans l'est de la RDC. Ils sensibilisaient les populations sur les récents massacres à Beni et dans la région du Kasaï. La Lucha, la lutte pour le changement, qui est un mouvement citoyen, dénonce cette arrestation. Selon Nyamulisa, adjoint Fred Boma, il est membre de la Lucha à Goma.
Les 4 artistes ont été arrêtés pendant qu'ils organisaient une exposition artistique vendredi passé à Goma. Une exposition dans laquelle ils dénonçaient le tuerie à Beni et dans la région de Kasaï. Alors pendant qu'ils étaient en train de manifester, la police a débarqué. On les a tous amenés d'abord à la mairie de Goma avant de les amener au parquet. Ensuite, à la prison centrale de Goma, où ils sont juste en ce moment.
Et qu'est-ce qu'on leur reproche?
On n'a pas encore constitué jusque-là des vraies infractions contre eux, selon les avocats. Mais il semblerait qu'on leur reproche d'avoir troublé l'ordre public et d'avoir incité d'une certaine manière à la rébellion en demandant notamment que les gens prennent conscience qu'ils doivent agir, qu'ils ont une responsabilité. Ce que nous trouvons évidemment très scandaleux et qui condamnons fortement. On ne peut pas arrêter quelqu'un et considérer que les opinions d'un artiste qui sont en plus basées sur des faits vrais viennent des actes constitutifs d'une rébellion.
Est-ce que c'est interdit de manifester au Congo ou il faut avoir une autorisation pour manifester?
Selon la Constitution, on ne doit pas avoir une autorisation. On doit informer juste les responsables au niveau urbain. Et qui, je pense, a été fait. Mais dans la pratique, il y a une sorte d'interdiction de fait de manifester, surtout lorsqu'il s'agit de manifestations de personnes qui ne s'expriment pas forcément dans le sens de ce que veut le gouvernement. C'est en fait une façon de réprimer toutes les voix discordantes, si bien de la société civile, des artistes ou des mouvements citoyens comme nous, même des gens de l'opposition. Mais toutes les autres manifestations qui sont pour vanter les actions du gouvernement et sont clairement autorisées, entre guillemets, on constate simplement que les manifestations et toute autre forme d'expression publique de opinions qui condamnent des actions du gouvernement ou l'inaction du gouvernement sont systématiquement réprimées.
Et que demande maintenant la Lucha par rapport tout justement à l'arrestation de ces artistes?
La Lucha demande que ces artistes qui n'ont fait qu'exprimer de manière artistique ce que tout le monde pense et ce que tout le monde condamne d'ailleurs, soient tout simplement libérés sans condition. Qu'ils ne soient pas obligés de payer aucune caution qui serait dans ce cas considérée comme une sorte de rançon à la justice, mais qu'ils soient simplement remis en leur liberté parce qu'ils n'ont commis aucune infraction. Ils n'ont fait qu'exprimer leurs opinions, opinions qui est par ailleurs partagée par presque toute la population ici à Goma et dans le pays. Ils n'ont pas à être condamnés pour ça. Ils n'ont pas à passer un jour de plus en prison pour ça. Ils doivent être libérés immédiatement.
C'était Fred Boma, membre de la Lucha à Goma.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les hôpitaux manquent cruellement de sang pour les malades. En plus d'être insuffisantes dans les grandes métropoles, les poches de sang sont introuvables dans l'arrière-pays et parfois dans les localités situées à la lisière de l'axe Yaoundé-Douala, la route la plus meurtrière au Cameroun en termes d'accidents. Notre correspondant au Cameroun s'est rendu dans la localité de Mbankomo, située à 22 km de Yaoundé, où les victimes d'accidents sont de plus en plus nombreuses. Reportage d'Emmanuel Jultap à Yaoundé.
L'hôpital de district de Mbankomo n'a pas de poche de sang. Au sein de la population, cette réalité est connue de tous et est considérée comme un grave préjudice sanitaire pour la localité. Monsieur Ondoa est autochtone de Mbankomo.
S'il y avait un hôpital de référence à Mbankomo, beaucoup de malades seront transférés ici.
Quand quelqu'un est blessé, une victime a besoin de
soins. On le transporte directement à Yaoundé.
En transportant quelqu'un, il meurt chemin faisant.
Sans doute, s'il est décidé que tu dois mourir, la mort vient de Dieu.
Comme dans plusieurs localités de l'arrière-pays du Cameroun, le transport lucratif par moto est devenu aussi incontournable en Mbankomo, avec ses corollaires bien évidemment, au nombre desquels les accidents graves et les victimes de ces accidents se comptent très souvent parmi les conducteurs eux-mêmes. Ceux-ci ont donc mis sur pied une mutuelle pour sauver les leurs, faute de possibilité de transfusion sanguine à l'hôpital du district Mbankomo.
Il y a la solidarité du corps. On l'amène à l'hôpital et puis on...
À Yaoundé aussi, à Mbankomo.
On met une équipe pour l'accompagner au niveau de Yaoundé.
En outre, la population a accru ici au fil du temps pour les femmes enceintes et les enfants malades. Le danger est permanent dans la localité de Mbankomo. Une résidente témoigne.
Mon enfant avait l'anémie sévère. Il fallait qu'on fasse une transfusion à l'immédiat. Ici en Mbankomo, ce n'est pas possible. Seulement en cas d'opération, on peut prendre le sang là à Yaoundé.
Malheureusement, même à Yaoundé, les poches de sang ne sont pas à la portée de tous. Le Cameroun, en 2016, n'avait que 82 661 poches de sang sur les besoins estimés à 400 000 par an. Autre difficulté, et pas de moindre, les rares poches de sang coûtent cher. Et pour obtenir l'une d'elles, il faut en outre venir avec deux donneurs. Ce qui complique le processus de transfusion sanguine au Cameroun. Explication avec Dr Noah Oona, secrétaire permanente du programme de transfusion sanguine.
Nous ne vendons pas le sang au Cameroun. Nous avons évalué la poche de sang à environ 50 à 60 000 francs. Ça, c'est le coût réel. Et vous voyez bien que dans les formations sanitaires, en fonction des plateaux techniques, ça variera entre 10 000 et 25 000, que nous trouvons déjà assez élevé. C'est pour cela qu'il faut un nouveau système national.
Ce nouveau système s'appelle le plan stratégique national de transfusion sanguine, validé le 14 juin 2017, une bonne nouvelle surtout pour les populations de l'arrière-pays Yaoundé. Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
À l'instar de toutes les villes du Mali, les fidèles musulmans de Gao ont fêté l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Les musulmans ont prié pour la paix au Mali malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la grande ville du nord. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
C'est sous une pluie battante que les fidèles musulmans de Gao ont fêté ce dimanche l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville a contraint certains à rester à la maison. Ceux qui ont eu la chance de prier ne l'ont pas fait au lieu habituel. Voici la réaction des gens interrogés ce dimanche, jour de fête à Gao.
J'ai prié à la maison, j'ai rencontré un peu de difficultés par rapport à la pluie qui est coïncidée avec la fête. Poser des problèmes pour nous rendre à la mosquée quand. Et je fais toute la matinée à faire sortir de l'eau à la maison.
Aujourd'hui, on est très content parce qu'on a fêté au moins. Tu vois, nous, on est un peu inondé, pas tellement, mais vraiment, la pluie nous empêche de bien fêter quoi.
On est très joyeuse, on est contente parce que c'est la fin de Ramadan, c'est la fête. On a bien fêté car on se porte à merveille, on a bien mangé. Le bon Dieu nous a bien arrosé, pratiquement comme on était à Paris, quoi. Le climat était bien, les gens ont vagué à l'air après la pluie. On a mangé, on a dansé.
Ça a été bien passé, malgré qu'on n'a pas prié dans la place de Chigonsor, mais on a prié à la mosquée. Vraiment, la fête, ça a été bien passé. Vraiment, on est content. Malgré que le mois, là, ça a été dur, les marchandises, là, ils sont chers. La fête aussi est venue, les habits sont chers, mais vraiment, ça a été bien passé. On a prié pour le Mali, pour que la paix vienne au Mali. Nous, comme à Gao, on était très, très contents. On souhaite bonne année à tout le monde, tous les musulmans.
L'occasion pour l'imam de la force Barkhane de faire cet appel.
Barkhane n'est pas une armée de croisés. Ici à Gao, nous avons une mosquée dont je suis l'imam. Je dirige les 5 prières par jour. Je prêche pour la prière du vendredi. Alors n'écoutez pas les discours de propagande qualifiant Barkhane d'armée mécréante. Elle n'a pas d'objectif religieux, mais vient en soutien du Mali et des forces maliennes afin de protéger des populations contre des groupes terroristes violents et intolérants. S'il pensait être sur la voie du paradis, il se trompe et il est encore temps qu'il revienne sur la voie de la concorde, du dialogue et du pardon.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma. À la console, Thomas Blondet. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.